Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Et ce soir, nous ouvrons la quatrième page, le quatrième chapitre d'une série qui nous a conduit ici même, en forêt de Montmorency, où nous attendent des arbres, des fleurs, mais surtout le gestionnaire de cette forêt, Denis Hémer, qui depuis plus de 40 ans vit ici au château de la Chasse et qui nous initie à la vie de la forêt, à la gestion de la forêt. Et avec son équipe, qu'on rencontrera dans un instant, nous allons ouvrir cette page, qui est une page la plus colorée possible, c'est celle de l'automne. On a donc découvert ce qu'était la forêt en hiver, avec évidemment ses contraintes, ses coupes, etc. On en reparlera. On a redécouvert, bien sûr, la forêt au printemps, c'était en avril dernier. Et puis l'automne et l'été, c'était au mois de juillet, nous étions ensemble, c'était passionnant encore. Et voilà, donc Denis Hémer, bonsoir, nous sommes au cœur, au centre nerveux de la forêt de Montmorency, dans le pavillon assez peu connu du public, c'est le Bois Corbon, un endroit qui a une histoire aussi, vous allez peut-être nous la raconter.
Voilà, alors Bois Corbon, donc effectivement, c'est une petite zone au cœur de la forêt, fermée au public, hein, c'est 60 hectares de forêt, cette zone peut faire un repli pour les animaux, et puis surtout on a ce bâtiment assez curieux, donc, qui est en fait la ferme d'un château qui a été démoli dans les années 90. Centre de Bois Corbon, centre nerveux de l'ONF, on a nos bureaux, et puis c'est là où on travaille. Et on prépare en ce moment justement le programme de l'année suivante.
Alors que l'équipe se constitue de combien de personnes? Parce que pour gérer, on a parlé de 2000 hectares de forêt répartis sur une vingtaine de communes, je crois, qui sont limitrophes. Eh bien, combien de personnes travaillent ici?
Alors sur le massif de Montmorency, donc on est 3 techniciens forestiers. Le chef du TES, c'est Philippe Belchi, donc, qui s'occupe du Val d'Oise et de Saint-Germain, qui nous dira sans doute un petit mot tout à l'heure. Et puis, on a des ouvriers forestiers. Enfin, il y a toute une logistique qui tourne sur les 3 massifs du Val d'Oise, qui sont Montmorency, l'Isle-Adam et Carnel.
Oui, très, très bien. On rencontrera en effet Philippe tout à l'heure. On est devant une image qui représente une partie de la forêt. On est devant votre ordinateur, hein, en fait.
Donc on est devant notre ordinateur, effectivement, dans les bureaux de l'ONF. Là, on travaille avec la photo satellite. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? On prépare le programme des coupes. Vous savez qu'à Montmorency, il y a toujours cette maladie de l'encre qui sévit et ces châtaigniers qui meurent. Et du coup, il faut préparer assez finement comment organiser ces coupes sur le massif. Là, nous sommes à la parcelle 15, hein, toute la forêt, les parcelles ont un numéro, c'est l'unité de gestion, une parcelle fait à peu près 10 hectares, et on a tous ces critères, comment arriver à faire cette coupe pour, ma foi, enlever les châtaigniers morts, garder la zone avec des chênes, ne pas trop choquer le public, ne pas trop tasser les sols, donc on a tous ces critères. Et pour cette parcelle, on a fait une petite, ce qu'on appelle une tournière, un chemin le long de la route qui va de Saint-Leu à Chauvry, qui est un espèce de serpentin pour arriver à avoir des rejets, que visuellement ce soit acceptable. On a ensuite repéré une CP remarquable un peu dans le milieu de la parcelle qu'on va essayer de mettre en valeur et qui va servir un petit peu de lisière. On a repéré les chênes intéressants le long de la route de la future route que j'ai repéré aussi, qu'on va garder aussi comme sorte d'écran. Et puis avec tous ces critères-là, on a les cloisonnements, parce que la batteuse et les engins doivent passer dans des coins précis pour ne pas tasser le sol dans toute la parcelle. Et une fois qu'on a checké, je dirais, tous ces éléments, on a vu où était la place de dépôt, on sait où on va emmener le bois pour charger les camions, et bien une fois qu'on a passé une ou deux journées à analyser tout ça, on sait que dans cette parcelle, on est équipé pour démarrer la coupe qui aura lieu pendant l'hiver, et puis faire ça dans de bonnes conditions. Et on fait la même chose pour toutes les parcelles, en essayant d'optimiser les coupes ne pas trop choquer le public, récupérer le bois dans de bonnes conditions. Alors voilà, souvent les gens, après ça, ils disent « Oh là là, vous avez tout coupé », ils ont l'impression, ils disent « Tiens, le forestier du château de la Chaise s'est levé ce matin, il dit « Je vais aller couper 10 hectares là-bas ». Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On a bossé notre truc, on l'a préparé, on l'a réfléchi, on a repéré les arbres intéressants que vous pouvez conserver. Et tout ça, bon, bah, c'est le résultat de pas mal de boulot en amont qu'on est en train de faire en ce moment.
Alors, on est devant une image très zoomée sur cette parcelle 15. Mais j'aimerais, Denis, qu'on revienne un tout petit peu quelques mois en arrière sur l'état forestier et sur les conséquences que vous percevez de façon très concrète, quasiment quotidiennement, les conséquences du réchauffement climatique. On a eu un été particulièrement dramatique, puisqu'il y a eu des feux de forêt très importants dans le monde, mais aussi en France, et dans des régions qui ne sont pas forcément les plus vulnérables pour les feux, notamment en Bretagne, mais peut-être même en Île-de-France. Comment vous analysez vous-même, en tant que forestier, on prend un petit peu de recul. Comment vous analysez cette situation et les, à la fois les causes et les moyens de prévenir ce problème ?
Alors donc voilà, le réchauffement climatique aujourd'hui, ben, c'est plus un discours, tout le monde s'en rend compte, c'est une réalité. Là on est fin octobre, je crois que la semaine prochaine ils annoncent 30 degrés à Clermont-Ferrand la semaine prochaine, pour fin octobre c'est quand même assez rare. C'est le 9e mois où on bat les records de température en termes de chaleur au plan national, 9 mois d'affilée, je crois que ça aussi c'est du jamais vu. Donc effectivement, il y a un véritable réchauffement climatique. Les gens qui viennent au château de la Chasse disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les temps sont si bas? On n'a jamais vu ça ». Moi qui suis là depuis 40 ans, effectivement, j'ai jamais vu un niveau des temps aussi bas. Parce qu'il pleut moins, parce qu'il y a une sécheresse importante, voilà. Donc ça, le réchauffement climatique, c'est une évidence. Les feux de forêt, ben, on fait tristement l'actualité, avec je crois que c'est 8000 hectares qui ont brûlé dans les Landes de Gascogne. Bon, je connais pas très bien la problématique des Landes, parce qu'il y a de la forêt privée, etc. Mais en gros, j'ai vu qu'ils mettaient en place le contre-feu, chose que j'avais vue simplement dans les livres, où on allume un feu pour en arrêter un autre, tellement les choses vont mal. Moi, à l'école, on m'avait dit, vous savez, vous verrez ça très rarement. Et j'ai vu que cet été, ils en étaient là. C'est-à-dire qu'ils prenaient un droit et une route, le feu avançait, puis les pompiers allumaient un contre-feu pour que le premier feu aspire l'autre et que du coup, eh ben, on arrive à s'en sortir et qu'on n'ait pas toute cette forêt brûlée, enfin, pour réussir à arrêter un incendie. Ça, c'est lié au réchauffement climatique. Je sais que malgré tout, une grande partie des feux, c'est d'origine criminelle. Ce sont des gens qui allument les feux. Mais c'est sûr, en période de grande sécheresse, celui qui va allumer un feu, il a quand même plus de facilité. Donc ceci n'explique pas que cela, mais effectivement, il y a ce réchauffement climatique, il y a ces forêts qui brûlent. Évidemment, c'est très ennuyeux. Alors,
est-ce qu'on a craint ici même, sur la forêt de Montmorency, sur le massif même qui va jusqu'à l'île Adam et Carnel, est-ce qu'on a craint ces problèmes ?
Alors effectivement, voilà, les feux de forêt, ben, on a eu ça. Moi, je suis ici depuis pas mal d'années, on n'avait jamais fait de tournée de surveillance incendie. C'était des choses qui étaient réservées aux gens du sud de la France. Eh bien, cette année, on a fait des demi-journées où il y avait alerte canicule, où on arrêtait tous les engins en forêt, où on disait personne ne travaille en forêt, pas de camion, et nous, on tourne et on surveille, et on fermait au public certains parkings de peur qu'une voiture mette le feu. Donc on a eu cette année des grosses sécheresses sur le massif, et on a essayé de faire notre job de surveillance un petit peu comme si on était dans le sud de la France.
D'accord, donc c'est une nouveauté en fait pour vous qui gérez cette forêt depuis si longtemps. On est vraiment dans une problématique mondiale, mais qui, tout près de chez nous, peut aussi s'avérer être assez critique. En tous les cas, vous prenez toutes les précautions. Est-ce qu'il y a maintenant des procédures de surveillance particulières qui vous sont proposées par votre administration pour prévenir justement ces risques?
Procédure particulière, on ferme certains parkings qui sont à risque. On arrête des entreprises qui devraient travailler ou des coupes, des bûcherons. On dit, bon, allez, aujourd'hui, là, cet après-midi, on a la pointe de la canicule. On va arrêter cet après-midi. On met ça en place. Après ça, effectivement, on n'a pas tellement de solutions pour empêcher les 5 millions de visiteurs de venir en forêt. Hein. Souvent, s'il n'y avait personne, les risques d'incendie seraient moindres, c'est certain. On dit toujours oui, mais il y a un bout de verre qui fait loupe et ça prend feu. Bon, peut-être dans le sud, mais ici, bon, j'y crois moyen.
Voilà. Bon, alors donc on a cette photographie de l'été qui vient de se terminer. Aujourd'hui, la forêt d'automne, on est en effet tout à fait fin octobre. En matinée, on est quand même dans une saison d'été indien, comme on disait, dans le nord de l'Amérique, comme disait Joe Dassin. Et cet été indien a l'air de se poursuivre. Il fait très beau. Et ce qui est étonnant, c'est que la forêt ne semble pas avoir pris totalement ses couleurs d'automne. Qu'est-ce que les feuilles des arbres présents nous disent ? Il y a bien quelques feuilles qui jonchent le sol, mais aujourd'hui, la forêt est encore bien verte.
Voilà, alors qu'est-ce que les arbres nous disent ? C'est intéressant, ça. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trop parlé, mais ils nous donnent des tas d'indices. Bon, c'est vrai qu'on a quand même eu des pluies assez récemment, donc il y a une grosse période de sécheresse cet été, il a plu un peu, s'il avait fait très sec tardivement, les feuilles seraient peut-être tombées plus vite. L'automne à Montmorency, c'est surtout les châtaines qui tombent des arbres, les gens viennent en enserrer avec des grands sacs, c'est les champignons, ça se produit cette année, et puis même si les châtaignes sont malades, il y a encore des châtaignes pour des années. Parfois assez grosse. Alors, quand il y a un choc comme ça, climatique ou des difficultés, les gens me disent « Oui, mais les châtaigniers, ils crèvent pas tant que ça, etc. » Bon, les arbres, ils ont un temps de réaction assez lent. Ils vivent sur leurs réserves un an, deux ans, puis après ça, quelquefois, le déclenchement de cette sécheresse ou la mort de certains arbres se voit plus tard. Donc, ça peut être un élément comme ça. Bon, l'automne à Montmorency, c'est magnifique. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée. C'est très romantique. Je pense que quand il y avait le Moyen-Âge et que tous ces châtaigniers, les distributeurs à châtaignes, la nourriture tombait des arbres, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des famines et que d'un seul coup, ils avaient à manger, ça devait être extraordinaire. Et l'instinct de ramassage et l'instinct de cueillette existent toujours. Parce que quand je vois des gens qui partent avec 6 ou 7 kilos de châtaignes, je ne pense pas qu'ils vont les manger. Mais c'est quelque chose qu'on peut ramasser, qui est gratuit ou je ne sais pas quoi. Et tout ça, bon, ben, c'est un côté sympa. Voilà, donc j'adore l'automne. Il y a beaucoup de travail. J'ai toujours en tête une citation. En septembre, le paresseux peut aller se pendre. Parce qu'en septembre, dans les fermes et dans la culture, il y avait beaucoup de travail. Il y avait tous les fruits à ramasser. Il y avait tous les labours d'automne et tout ça. Et donc, voilà, et cette forêt qui fournit la châtaigne. Et puis, ça va bientôt être la saison de la chasse. Donc, il faudra peut-être qu'on parle un petit peu aussi.
Merveilleuses images que vous nous donnez forêt qui a des siècles et qui continue à nous faire vivre, hein, même si on mange moins de châtaignes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de glands, je trouve, sur les chemins. Les chênes produisent beaucoup de glands. Et alors, la saison des champignons, est-ce que vous avez eu des promeneurs qui vous ont dit effectivement, c'est une très belle saison pour nous?
Alors moi, j'ai pas besoin de demander aux gens, j'habite au château de la Chasse. S'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des paniers, ça veut dire qu'il y a des champignons. S'il y a quasiment personne, c'est que ça marche pas. Il y en a deux, trois qui sont venus. Donc effectivement, j'ai vu des ramasseurs et puis il y a des beaux cèpes. Et cette année, elle est assez propice pour les champignons.
J'ai aussi l'impression qu'un des champignons les plus communs en forêt de Montmorency, c'est la manifaloïde. Un très joli champignon vert, très pâle, avec de belles lamelles blanches et un beau pied très tendu sous ce chapeau, et qu'il vaut mieux éviter de donner.
Donc il y a des champignons, alors il y a la manie de phalloïde, un champignon blanc évidemment très dangereux. Il y a la manie de Toumouche aussi qui est un classique, vous savez, cette espèce de champignon avec un chapeau rouge et des points. Alors on appelle ça la manie de Toumouche parce qu'autrefois on coupait ce champignon dans du lait et puis les mouches venaient et ça tuait les mouches, paraît-il, comme c'est poison. Donc j'ai appris ça aussi. Donc effectivement, ramasser ces champignons que vous connaissez et éviter de ramasser n'importe quoi.
Bon, alors on va s'interrompre quelques minutes parce que vous nous faites découvrir à chaque fois, Denis, un monde musical qui vous est vraiment très proche et très personnel, et vous aviez envie de nous faire écouter le groupe Cyclope avec à sa tête et ses arrangements le génial Gérard Cousin dans un classique de Édith Piaf, repris et corrigé, je dirais, l'hymne à l'amour.
Le ciel bleu, sous nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe, si tu m'aimes,
nous quittons l'hymne à l'amour avec Gérard Cousin et le groupe Cyclope. Et nous sommes maintenant avec un collègue de Denis Hémer. Nous sommes avec Philippe Belchi, qui est aussi technicien forestier et qui ne vit pas forcément ici, mais qui a une très grande connaissance du massif forestier de Montmorency et puis bien au-delà, Carnelles. Et puis Saint-Germain.
Jusqu'à Saint-Germain.
Philippe Belchi, vous avez connu la passion de la forêt assez tôt et qui s'est jumelée avec une autre passion et sous trois lettres qui sont trois lettres magiques pour vous. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Philippe Belchi?
Oui, alors effectivement. C'est une passion qui date un peu de mes 17 ans, et c'est souvent un peu le fait du hasard qui fait que, en appuyant sur un bouton de radio, on découvre la modulation de fréquence qui était très très rare quand j'étais plus jeune. On découvre France Musique, on découvre la musique classique et l'Orchestre National de France, et en même temps, en classe, avec un professeur de biologie, on découvre la nature, on découvre la botanique, on découvre la forêt et l'Office National des Forêts. Et donc ces deux fois trois lettres magiques résonnent et ont résonné en moi et résonnent toujours, et ce qui fait que c'est quand même plus facile d'être forestier que d'être musicien à l'Orchestre National de France.
Il n'empêche que vous êtes aussi musicien, Philippe, puisque vous êtes violoncelliste et que cette vocation, cette double vocation de musicien et de forestier a démarré très très jeune. Vous avez maintenant quoi? Dites-nous un peu votre âge.
Voilà, je suis plutôt dans la soixantaine, on va dire, au tout début. Mais oui, ma carrière, évidemment, de forestier est déjà bien avancée. Mais j'ai pu effectivement mener ces deux passions sur un rythme un petit peu différent. Mais mon métier de forestier, évidemment, m'a permis de connaître la forêt, d'aller l'explorer pour la comprendre, la préserver, mais aussi la récolter, parce que le bois, on en a besoin, et elle apporte plein d'autres services. C'est bien pour ça que les gens se promènent en forêt. Donc ça, c'est tout ce qui m'anime. Et parallèlement, effectivement, la musique, j'ai persévéré avec un violoncelle, et je joue dans un orchestre symphonique, et c'est évidemment des grands moments de plaisir.
On a du mal à entrer dans l'une ou l'autre de vos passions, mais pour en venir vraiment à ce qui nous intéresse directement, ici, cette forêt d'automne que nous découvrons après avoir eu les trois autres saisons, vous gérez aussi la forêt et vous donnez quatre missions essentielles à l'ONF, l'Office National des Forêts. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces quatre missions et comment ça se traduit quotidiennement pour vous, Philippe Belchi?
Alors, les missions de l'ONF, effectivement, sont de plusieurs ordres. La première, c'est la gestion forestière, la gestion sylvicole, qui permet d'assurer la pérennité de la forêt et aussi d'assurer la commercialisation des bois pour la filière bois, qui est quelque chose d'important. Ça, c'est notre mission ancestrale, puisque le premier texte qui règle un peu, qui régit la gestion forestière date de Philippe le Bel en 1291. Donc nous travaillons, nous forestiers, ici, humblement, je dirais, à la suite de cet héritage, et nous avons à cœur de transmettre des forêts durables de génération en génération, mais de continuer à faire comme l'ont fait les générations précédentes, couper des arbres à un certain moment pour pouvoir les utiliser. C'est comme ça que nous avons des bâtiments, des cathédrales et plein d'autres choses importantes en France. Donc ça, c'est notre métier de base. On prend en compte aujourd'hui de façon très concrète la biodiversité. C'est pour ça que, par exemple, sur Montmorency ou l'Isle-Adam, nous avons un plan de gestion des mares et des zones humides 2014-2024. Nous avons fait en 2022 cette année un inventaire des amphibiens et des odonates dans les mares, notamment sur l'île Adam, et on va continuer sur Montmorency et Carnel.
Est-ce qu'ils sont en risque de déperdition, ces animaux?
Alors justement, ça a été présenté au comité de forêt le 26 septembre dernier, aux associations et élus. Nous avons de bons résultats de ces inventaires, donc ce qui montre que la biodiversité, en tout cas dans les mares, et les quelques travaux que nous avons pu faire pour que les mares ne s'enlisent pas ou pour que la lumière reste présente dans ces mares, a été efficace. Donc pour nous, on est content, parce que ça veut dire que la biodiversité se porte bien parallèlement à la sylviculture que peut faire le forestier. Pour nous, ce sont des indicateurs très importants.
Pardon, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des oiseaux. Il me semble qu'il y en a moins, on les entend moins, on les voit un petit peu moins. Ils sont présents, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il en est des oiseaux sur le massif ?
Alors, les oiseaux sont toujours présents en forêt. Évidemment, entre une clairière, une lisière, une futaie adulte bien dense, le cortège d'oiseaux est tout à fait différent. On va avoir des pics qu'on va retrouver partout, le pic vert, le pic épêche, le pic épêchette, mais il y a aussi tout un cortège très important d'oiseaux dits communs. Communs parce qu'on les trouve souvent, mais ça c'est important, et ils sont toujours présents en forêt. Il faut savoir que il y a ce qu'en France appelle le stock, le suivi temporel des oiseaux communs, qui est fait beaucoup avec des associations de bénévoles et autres, qui montrent qu'en France, au cours de ces 20 dernières années, ces oiseaux communs ont une baisse d'individus de l'ordre de 29%. Sauf que c'est 32% dans les terrains agricoles, et c'est entre 0 et moins 1% en forêt. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la forêt préserve aussi tous ces oiseaux communs, pas que les espèces rares.
Très intéressant, très important. On peut parler des gros animaux, gibiers, qui peuvent être chassés dans la forêt, puisqu'il y a une gestion, évidemment, de ces animaux importants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, aussi bien sur Montmorency que sur Carnel et puis Saint-Germain?
Alors effectivement, il y a un équilibre qu'il faut trouver entre la forêt et les animaux sauvages, dont certains mangent les jeunes plants. Hein, quand il y a un gland qui tombe au sol, il va germer. Et le chevreuil, par exemple, qui est un gourmet, il lui faut du 4 étoiles. Et donc les bourgeons de ces jeunes arbres sont très appréciés. Ces animaux n'ont plus de prédateurs. Bon, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lynx, il n'y a plus le seul prédateur, ça va être l'homme, et c'est pour ça que il faut absolument arriver à réguler le nombre d'animaux de façon à ce qu'ils restent comme ils l'étaient avant, quand il y avait des prédateurs naturels, en équilibre avec la forêt, sinon on mettrait en cause la régénération de cette forêt. Il ne s'agit pas d'éradiquer ces animaux, mais de maintenir les populations dans un niveau acceptable pour l'équilibre. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, parce qu'il faut chasser sur tout le territoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle des opérations cynégétiques, et ça, c'est très important. J'en parle d'autant plus que moi, je ne suis pas chasseur, mais je comprends tout à fait l'intérêt, notamment vis-à-vis du chevreuil, pour la protection de la forêt. Ensuite, il y a le sanglier. Ben, le sanglier, voilà, il est très présent. Il remue un peu la terre pour la forêt, il est pas trop embêtant, mais souvent, il va dans les villes ou en bordure, on le voit sur des ronds-points, et donc, il crée beaucoup d'accidents de la circulation. C'est un animal qui se reproduit beaucoup. Donc là aussi, parce que la société a envie d'être un peu plus tranquille, on va dire, il y a une régulation qui est faite aussi sur le sanglier. Et donc, la saison de chasse va commencer en forêt domaniale bientôt. Il y a des panneaux qui sont mis pour signaler les périodes, les journées de chasse. Il y a sur notre site internet, pour toutes les forêts de France domaniale, toutes les informations. Et puis maintenant, il va y avoir une application, Melchron, qui permet le matin de savoir la zone exacte de chasse, et ce qui laisse ce qui laisse tout le reste de la forêt pour la promenade, parce qu'évidemment, on ne chasse que sur un dixième ou un quinzième de la forêt.
Très bien. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs seront à la fois informés et rassurés. On a parlé de la gestion des bois, on a parlé de la biodiversité, d'autres missions importantes de l'ONF, Philippe Belchi.
Alors, une autre mission, c'est l'accueil du public, puisque ça, c'est une volonté de l'État, puisque l'ONF est un établissement public et que nous agissons en fonction de ce que nous demande l'État français. Et effectivement, l'État a dit, j'ouvre mes forêts au public, je les laisse ouvertes. Il appartient aux collectivités locales de voir les aménagements touristiques qu'on peut faire en termes de tables, de bancs ou autres. C'est ce que nous faisons avec les collectivités, les communautés d'agglos, les départements, la région. Mais les forêts sont ouvertes au public c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la forêt. Elle est multifonctionnelle et tout le monde doit cohabiter à la fois le bûcheron, le ramasseur de champignons, le jogger ou la joggeuse, et puis le promeneur de randonnée. Et ça fait partie d'un élément fort d'aspect social de la forêt.
Est-ce que vous qui avez découvert la forêt très jeune, enfin assez jeune, est-ce que les enfants peuvent être élevés avec le goût, le respect, l'amour de la forêt selon vous? Est-ce qu'il y a une sorte de discipline pour apprendre aux enfants ce qu'est une forêt? Ce n'est pas qu'un fantasme dans les livres.
Oui, je crois qu'il faut apprendre effectivement ce qu'est la forêt. On l'a peut-être un peu oublié pour certains. Non seulement il faut apprendre la forêt, mais il faut apprendre ce qu'est le vivant et ce qu'est le vivant non humain. Moi, je fais partie d'une génération où on avait des grands-parents ou des grands-oncles et grands-tantes qui avaient une ferme. Moi, j'allais garder les moutons le dimanche, très souvent. Mes enfants, non, je les ai emmenés dans des structures où on pouvait voir des animaux. Aujourd'hui, on a des générations où les grands-parents étaient déjà urbains, donc on a perdu ce relation, non pas avec la forêt en tant que décor, ou la forêt en tant qu'endroit plus calme que la ville, mais on a perdu cette relation avec la forêt qui est un ensemble d'êtres vivants non humains, et je pense que les générations des plus jeunes aujourd'hui sont peut-être un peu plus sensibilisées et à retrouver cette relation qu'on peut avoir avec un monde vivant non humain. Et quand on a compris ça, je pense qu'on est à la fois plus respectueux de la forêt, parce que on ne va pas y aller comme en étant dans un jardin public ou en étant propriétaire d'un moment ou d'un espace le temps d'un moment, mais on va y aller en ayant envie de respecter ce monde vivant, et du coup ça va conforter notre place en tant qu'humain sur cette planète qui aujourd'hui est quand même mise à mal et où on a besoin d'éléments naturels de sécurisation. Et je pense que la forêt, c'est bien pour ça que tout le monde parle de la forêt aujourd'hui, la forêt peut rendre ce service-là et de faire en sorte que l'humain recolle au vivant non humain.
Très, très important comme réflexion et comme anticipation sur ce que nous avons à vivre et à transmettre. On a parlé donc de l'exploitation, si j'ose dire, des bois. On a parlé de la biodiversité, on a parlé de l'accueil des publics. Il y a peut-être encore d'autres missions ONF, Philippe Belchi.
Oui, une dernière grande mission qui est un peu moins présente dans notre département, dans nos forêts, c'est des missions de protection. Protection des terrains en montagne, ça ce sont des grandes lois de 1860-1870 pour reboiser les hauts de versants et éviter l'érosion, les inondations. Il n'y en a presque plus en France, les plus anciens se rappelleront de Vaison-la-Romaine, je crois en 1989, mais c'est vrai que les grandes inondations dans la vallée de la Tarentaise, de la Maurienne, dans les Cévennes, n'existent plus, parce qu'on a ces grandes forêts de montagne dont l'ONF s'occupe toujours, qui ont un but de protection. Autre exemple, c'est le cordon dunaire qui va de Bordeaux à Biarritz, hein, je schématise, qui a été planté sous Napoléon III en particulier, et qui a pour but de stopper l'avancée de la dune, les embruns, et derrière, toute la forêt des Landes est privée, parce que du coup, ils se sont aperçus que les arbres, les pins poussaient bien, donc pourquoi pas en faire pousser. Donc, voilà, ce sont des missions de protection que nous animons, et puis peut-être qu'il y en a une autre qui va prendre un peu plus d'ampleur, qui jusqu'à présent est limitée au sud de la France, c'est la DFCI, la Défense des Forêts contre l'Incendie. Voilà, pour la première fois dans le Val d'Oise, nous avons fait trois journées de tournée de surveillance incendie, parce que le risque était très fort en termes de faible humidité de l'air, de très grosse sécheresse des végétaux, ce qui nous a amené à patrouiller pour dire aux gens de faire très attention, vérifier qu'il n'y ait pas d'incendie, de barbecue.
Oui, Denis Hémer nous disait tout à l'heure que, en effet, on avait pris la précaution de fermer des parkings, d'éviter de faire circuler des engins forestiers au sein de la forêt et même d'éviter d'avoir du personnel sur place. Donc il y a beaucoup de précautions qui sont prises en effet avec les risques nouveaux. On va peut-être vous laisser quelques secondes aux musiciens que vous êtes pour nous introduire à une pause musicale. Philippe Belchi, vous nous parliez des essences de bois qui sont particulières pour certains instruments. Dites-nous qu'est-ce que vous avez entre les jambes lorsque vous avez votre violoncelle, par exemple.
Alors, les instruments à cordes, comme le violon, l'alto, violoncelle, contrebasse, effectivement, sont faits avec des bois. C'est une petite niche de ce que produit la forêt et de ce qu'on peut récolter, ces bois particuliers. Alors, il y a d'une part l'érable. Ce qui est recherché, c'est l'érable ondé. Pourquoi ? Parce qu'il pousse pas tout à fait droit. Il pousse en faisant des circonvolutions. Enfin voilà. Et donc quand on le scie, ça fait des petits dessins. C'est ce qui sert à faire la caisse de ces instruments. Et puis il y a le dessus qu'on appelle la table, qui est fait en épicéa. Donc là, c'est ce qu'on appelle les bois de résonance. Et donc il y a des spécialistes, beaucoup dans l'est de la France, qui parcourent les forêts, qui donnent des petits coups de poing ou des petits coups de maillet sur les arbres, qui écoutent l'arbre quand il est encore en vie dans la forêt et qui vont, parce qu'ils ont l'expérience, dire « celui-ci permettra de faire un bel instrument ». Donc ce sont des arbres qui sont récupérés, qui sont choyés, qui sont emmenés dans des scieries, qui sèchent pendant plusieurs années et qui ensuite vont servir à faire, qui vont servir aux luthiers à faire donc les beaux instruments. Donc ça, c'est important. J'ai même eu un professeur de violoncelle qui avait un violoncelle avec une caisse en châtaignier. Donc ce qui montre que toutes les essences peuvent être utilisées et pourquoi pas, peut-être que certains luthiers vont retrouver dans le châtaignier de Montmorency une utilisation particulièrement noble de ce bois.
Merveilleux, donc on va suivre vos deux passions, on vient de suivre vos deux passions et on va suivre celle qui vous anime très intimement, c'est la musique. Vous nous proposez d'écouter un concerto pour mandoline de Vivaldi. Un très grand merci Philippe Belchi, parce que là vous nous avez fait voyager dans le cœur, dans l'esprit et sur terre. Merci. Voilà, nous quittons Venise et Vivaldi et nous revenons en forêt de Montmorency avec Philippe Belchi qui a tant de choses à nous raconter, qui connaît parfaitement tous les massifs de l'Île-de-France et bien au-delà, y compris ceux des Landes. Et il voudrait, je crois, nous parler d'un endroit qui est très, très bien connu des joggeurs, des promeneurs en forêt de Montmorency, c'est l'étang Godard. Qu'est-ce que représente pour vous et quelle est un peu l'histoire de cet étang? Une histoire familiale, il me semble.
Oui, en fait, cet étang, il tient son nom d'une famille, la famille Godard, qui avait une grande propriété sur Taverny, et dont la propriété venait jusqu'à ce qui n'était pas encore la forêt domaniale de Montmorency, mais en fait, jusque sur le plateau où il a créé cet étang, qui à un moment s'est appelé l'étang Oussensu, mais qui a été rebaptisé l'étang Godard. Et puis après, ils ont habité vers Frépillon ou Villiers-Adam, et cette famille a eu un fils, Benjamin, deuxième partie du 19e siècle, qui était musicien, qui a écrit de la musique à l'époque de Ravel, de Debussy, musicien assez connu à son époque. Et il se trouve qu'au mois de septembre dernier, les journées européennes du patrimoine, j'ai accueilli un quatuor de violoncelle qui est venu faire une aubade et qui a joué devant l'étang Godard la musique de Benjamin Godard. Voilà, ils ont fait ensuite des concerts sur Villiers-Adam et Frépillon. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil parce que la forêt est aussi riche de toute cette histoire que l'on retrouve à travers l'histoire des noms en particulier.
Alors, si on revient évidemment à nos journées aujourd'hui qui ne sont pas du patrimoine, pour les promeneurs, il arrive qu'on soit un peu choqué de ce que la forêt soit un peu souillée, soit par ce que les gens laissent, les papiers, les mouchoirs, etc. Mais aussi par des choses plus importantes, c'est les déchets déposés par des personnes malveillantes, des restes de chantier. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment un problème. On a déjà évoqué cette question-là avec Denis, et il disait à quel point ça coûtait cher, et c'était une sorte de souillure sur le massif. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Philippe Belchi?
Alors, d'une part, effectivement, il y a les petits déchets que laissent les promeneurs. Quelquefois, sans faire exprès, un mouchoir qui tombe de la poche sans qu'on s'en aperçoive, ou on a oublié une canette, ça arrive depuis longtemps. On sait à peu près ramasser ça. D'ailleurs, nous avons en forêt de Montmorency une équipe de personnes qui fait des TIG, des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qui viennent ramasser des papiers à la place de purger une peine de prison. Alors, en général, ce sont des peines légères. Hein. Ils sont encadrés par une association, le CPVC, qui est basé à Saint-Prix, et qui prennent en charge avec une petite camionnette tous les jours cette petite équipe et qui fait un travail remarquable de piquetage, comme on dit, c'est-à-dire de faire les fossés, les bordures de chemin, qui va tout autour de l'étang Godard en particulier, et qui ramasse tous ces papiers. Et on arrive à maîtriser ça. Ils sont un petit peu en baisse, on va dire, depuis ces 5-10 dernières années, ce qui montre que les gens sont un peu plus attentifs. Ça, c'est bien, c'est maîtrisé, voilà, ça fait pas de dégâts. Par contre, effectivement, l'autre déchet, ce sont les incivilités, voire les délits que font des personnes qui font des travaux, quelquefois au noir, non déclarés, ou avec le camion du patron, ou pour ne pas payer la déchetterie, qui versent ça en forêt, sans scrupule. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que ça veut dire qu'il faut avoir du matériel pour le ramasser, que nous n'avons pas, nous, on est forestiers, on n'est pas une déchetterie. Souvent, c'est même des choses un peu compliquées. Quand il y a de l'amiante ou autre, on n'a pas la compétence. Nos personnels ne peuvent pas faire ça.
Comment vous gérez ce genre de choses?
On est obligé de faire appel à une entreprise extérieure. Et puis, on essaye de travailler avec les collectivités. Parce que ces déchets, ce n'est pas les déchets des forestiers, encore moins ceux de la forêt. Donc voilà, ce sont des déchets de la ville. Et donc, il faut qu'avec les collectivités, on puisse essayer de résoudre ces problèmes-là.
Oui, c'est vraiment une gestion et il me semble qu'on atteignait des sommes assez considérables justement pour ramasser, trier, etc., tous ces déchets de chantier. On a parlé dans votre premier propos tout à l'heure de la gestion raisonnée de l'exploitation du bois. Alors peut-être que pour évacuer tout sens polémique, parce que je crois que le public ne sait pas forcément qu'il y a une sorte d'historicité très longue de la gestion des forêts qui remonte à Philippe le Bel, mais aussi à Philippe VI de Valois. Vous pourriez nous dire ce qu'il a écrit, cet homme-là?
Alors oui, Philippe VI de Valois, en 1346, ça fait partie d'une des dates un peu fondatrices avec Philippe le Bel et puis un peu plus tard Colbert en 1669. Donc des dates un peu historiques de gestion forestière parce qu'il a fait une ordonnance à Brunoy, d'ailleurs en Île-de-France, là dans l'Essonne aujourd'hui, dans la Seine-et-Marne, je crois, où il demande au maître des eaux et forêts de parcourir les bois, alors j'aurais pas la phrase exacte, hein, mais de parcourir forêts et bois pour y couper ou les arbres nécessaires, mais de façon soutenable pour la forêt. Et c'est ce mot soutenable qui est parti dans le monde anglo-saxon sous l'appellation sustainable et qui est revenu avec gestion durable en France. Mais on peut dire que la gestion durable des forêts commence au XIVe siècle. Donc c'est ce qui nous anime, nous, humblement, en tant que forestiers. On n'a pas l'objectif, le but ou les consignes de raser des forêts pour faire de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Non, notre objectif, c'est d'avoir des bois de qualité, dans des forêts de qualité, qualité de bois, qualité de biodiversité, de façon à alimenter la filière bois parce qu'on en a besoin, peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier, mais de façon soutenable, de façon durable. Et c'est ça qui nous anime. Et quand on coupe un arbre, en fait, on coupe cet arbre-là parce que le fait de l'enlever va profiter à celui qui reste, jusqu'à ce qu'il soit très vieux, gros, beau, on va dire, qui va laisser des graines pour se régénérer, et à ce moment-là, ben on va le couper, quand dessous, il y aura la nouvelle génération de forêts. Alors peut-être qu'elle ne fait que 50 cm, peut-être qu'elle ne fait que 1 mètre. Quand on coupe le vieux, ça fait une trouée, mais pour nous, forestiers, et il faut que le public le voit, le comprenne, la nouvelle forêt, elle est là. Une forêt, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est du vivant, non humain, mais c'est du vivant, et ce vivant-là, comme nous, eh ben, il a des naissances, il a des jeunes, il a des adolescents, il a des adultes et il a des personnes plus âgées.
Et vous qui nous ramenez au XIVe siècle, vous pouvez aussi nous faire projeter vers le 22e, 23e siècle, puisque vous travaillez non pas à vue de nez comme ça, mais vous travaillez pour plusieurs générations et pour une infinité de générations, Philippe Belchi.
Oui, évidemment, la forêt s'inscrit sur le temps long. Donc les arbres qui poussent aujourd'hui, ben, ils seront là, encore là pour certains dans 150 ans. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions avec le changement climatique, bien sûr. Donc ça, nous en tenons compte dans les travaux que nous faisons au quotidien. On ne sait pas exactement ce que sera le climat demain. Donc, comment sera la forêt demain? Je pense que personne ne peut le dire. On a des scénarios que nous donne le GIEC. Et on a tous les spécialistes, hein, pas les spécialistes de l'ONF, mais les spécialistes du monde forestier européen, et français en particulier, ont mis au point des outils qui nous permettent, en fonction de la région géographique, d'avoir une idée des espèces qui vont résister à trois modèles sur les quatre, enfin les trois modèles du GIEC plus le modèle actuel. Et donc aujourd'hui, on favorise des essences qui sont compatibles avec ces trois modèles pour permettre à la forêt de passer ce cap du changement climatique. C'est choisir des essences adaptées, mais surtout ne pas en choisir qu'une. Ça, c'est le deuxième élément, je pense. En tout cas, les forestiers en sont convaincus, dans l'état actuel des connaissances, de la réussite. C'est d'avoir un éventail assez important. C'est pour ça que dans les plantations de Montmorency, on plante du chêne, mais pas que. C'est 50, 55%, 60% maximum. Tout le reste, c'est d'autres essences, des fruitiers, des érables, des merisiers. Viennent s'ajouter toutes les essences pionnières, c'est-à-dire qui ont la capacité de coloniser l'espace très rapidement. On ne les plante pas, elles viennent toutes seules, les bouleaux, les érables. Donc on va avoir une forêt très variée, et elle saura immanquablement s'adapter aux conditions climatiques, parce que le monde vivant a toujours su le faire, avec les hommes, sans les hommes. Peut-être qu'avec le changement climatique, un jour l'homme disparaîtra, mais la forêt, sous cette forme-là ou sous une autre forme, restera là, et ce qu'il faut, c'est que l'homme ne la contrarie pas, mais dans ses actions, et c'est ce qui nous anime en tant que forestiers, on favorise au maximum justement l'évolution de cette forêt.
Voilà, quelques très belles images en perspective pour comprendre, accepter le traitement qui est fait aujourd'hui à la forêt et sa destination pour les générations qui viennent. On va retrouver notre ami Denis Hémer pour conclure cette émission. Je remercie évidemment très très profondément Philippe Belchi pour toutes ces informations, ces explications et ces passions qui l'animent sous ces trois lettre magique ONF, hein, qui rappelle à la fois l'orchestre et puis l'Office national des forêts. On retrouve Denis Hémer dans un tout petit instant, après avoir écouté peut-être les voûtes, c'est un de ses choix musicaux, hein, il est très original, Denis, de Stup et Flip.
S'envole et sa taille une de ses gueules. Pourquoi le temps file si vite? Pourquoi les gens se sentent seuls? Où sont les années passées? Pourquoi tu m'as pas rappelé? Quel jour on est? Qu'est-ce que j'ai fait de mon calendrier? Putain mais qu'est-ce qui se passe? Le temps fond comme une glace. J'ai dû rater un truc. C'est quoi ces traces dans la glace? Et je vois les autres vieillir, leurs artères se bouchent, les check-up c'est lâche, j'en vois qui tombent comme des mouches. Et les esprits se durcissent, crois bien que rien ne va s'arranger. Les cœurs se flétrissent et ça je te jure que ça rend le jus triste, comme la disparition des Smarties. Regrette les tickets verts et les dickies des 90s. Le temps passe vite sous les voûtes pétrifiées du monastère. Les bibelots prennent la poussière dérisoire sur leur étagère. Cet objet te survivra mec car il est fait de fer, une matière bâtard beaucoup plus dure que tes artères. Le temps passe vite sous les voûtes pétrifiées du monastère. Les bibelots prennent la poussière dérisoire sur leur étagère. Cet objet te survivra mec car il est fait de fer, une matière bâtard beaucoup plus dure que tes artères. Pourquoi je lui avais dit ça? J'ai vraiment été con là. Mais le bonheur s'est envolé, on se rend pas compte quand on l'a. Le temps ça passe ou ça casse, mon quotidien est mécanique. Des fois je me sens vide comme une boîte de cacolac. On est que des morceaux de bidoche, mioche, tout part en sucette. Tu veux laisser une trace mais ce sera qu'une paire de chaussettes. Les gens ça claque, fin des cycles inéluctables. Ils finissent bousillés comme une fringue à guérissol. Parce qu'on est fait de chair molle, biodégradable. Des machines fragiles en mode gradou pitoyable. Et qu'est-ce qui va nous survivre? Les chaises, les canapés, les poignées de porte, les lampes et les cendriers. Le temps passe vite sous les voûtes pétrifiées du monastère. Les bibelots prennent la poussière dérisoire sur leur étagère. Cet objet te survivra mec car il est fait de fer, une matière bâtard beaucoup plus dure que tes artères. Le temps passe vite sous les voûtes pétrifiées du monastère. Les bibelots prennent la poussière dérisoire sur leur étagère. Cet objet te survivra mec car il est fait de fer, une matière bâtard beaucoup plus dure que tes artères. Le temps passe vite, vite, vite.
Oui, Bernard. Eh bien, dernière intervention.
Voilà, nous sommes maintenant avec Denis Hémer et puis un de ces nouveaux étudiants, apprenti Aristide, qui a 23 ans et qui, après avoir fait quelques autres études qui n'ont pas grand-chose à voir ou pas trop loin, vous êtes maintenant engagé en alternance dans le métier de forestier. Quelques mots pour nous dire d'où vient cette nouvelle vocation et qu'est-ce que vous attendez de cette expérience professionnelle maintenant.
Alors cette vocation, pour moi, c'est principalement pour être souvent en forêt et avoir une responsabilité qui ait du sens pour moi, qui me tienne à cœur, parce que voilà, la forêt, c'est quelque chose que tout le monde aime, et moi, c'est quelque chose que j'adore, et j'ai envie de la voir perdurer, et c'est justement le métier de forestier, c'est de permettre à la forêt d'être, j'ai envie de dire, en bonne santé, mais ça, c'est pas le forestier, il peut rien, parfois, mais c'est pour lui permettre de perdurer dans les générations, que nos petits-enfants pourraient avoir du bois et avoir une forêt en même temps. De pas tout ratiboiser sans réfléchir, quoi. C'est le métier de forestier, c'est ça, quoi.
Voilà, c'est anticiper sur un avenir, et c'est extraordinaire quand on a 23 ans de penser aux enfants et aux petits-enfants, mais évidemment, c'est l'essence même de la forêt, hein. Aristide, donc vous travaillez pour l'avenir?
Ben, en gros, c'est ça, ouais.
Passionné de nature aussi?
De nature en général, oui, j'adore être dehors, en fait. J'aime pas être enfermé entre quatre murs, j'aime bien être sous les éléments, quoi.
La pluie, le soleil, le froid.
Voilà, tout ça.
Tout ça.
Ça dépend de la saison.
Voilà. Eh ben, on a un bon élément. Voilà. Je pense qu'il y a une transmission, puisque Denis Hémer est... plus de 40 ans ici dans le massif forestier de Montmorency, quand même, il va falloir transmettre un petit peu le flambeau aux jeunes. C'est un peu ça. On parlait aussi avec Philippe Belchi de ce que serait l'ONF 2.0. Je ne sais pas si vous partagez, Denis, ce point de vue, mais il voit évidemment l'évolution à la fois technique, mais mentale chez les forestiers. Tout est changé.
Oui, une évolution mentale chez les forestiers. Des jeunes qui sont là, comme Aristide, voilà, qui sont des gens qui aiment la nature. Je pense que la relève sera assurée dans les générations futures. On aura une génération de forestiers modernes qui seront des gens sûrement très sympas.
Alors, on a chez les anciens forestiers des gens qu'on a vus comme Philippe, un grand artiste, violoncelliste. Mais alors, on a avec Denis un amateur d'art contemporain. Et j'aimerais que vous nous disiez, avant de finir cette émission, vous nous disiez quelle a été votre dernière exposition visitée. Ça va vous surprendre. Et on finira sur des musiques qui ont accompagné cette visite. Denis Hémer, racontez-nous votre expérience là.
Alors du coup, donc, j'ai visité le bâtiment, l'ancienne Bourse du Commerce, qui est près des Halles à Paris, qui est un site nouveau avec des expositions d'art. Donc là, dans la grande coupole de la...
On peut le dire, c'est la Fondation Pinault.
C'est la Fondation Pinault. Donc dans la grande coupole, il y a un artiste qui s'appelle Henri Salade, mémoire, qui a fait un espèce de film dans la coupole avec... une platine vinyle qui tourne dans le vaisseau spatial international, et on voit ce film, elle tourne comme ça, et puis quand le bras vient toucher le vinyle, on a la musique de le quatuor pour la fin des temps de Messiaen qui se met en route et qui s'arrête. Enfin, il y a une espèce de magie dans cela qui peut choquer au début, mais en termes d'art contemporain, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir. Le site est beau. Voilà, il faut aller voir ça. Moi, j'ai visité le bâtiment parce qu'il y a des visites organisées par des passionnés où ils parlaient du bâtiment, l'histoire du bâtiment, cette ancienne halle à grains qui était à côté du marché des Halles. Et puis ces expos d'art moderne qui passent bien dans ce site. Enfin bref, j'ai adoré ça. Et on a fini au pied de cochon en face, qui est aussi, il y en a pour l'esprit, pour le corps, tout ça. Enfin, c'était une journée sympa.
Voilà. Eh bien, écoutez, vous nous réjouissez, Denis, de votre connaissance de la forêt. On a vu avec Philippe Belchi son amour pour la musique et pour la forêt. Avec Aristide, son engagement dans la... future carrière de forestier. Et voilà, avec Denis Hémer, on découvre un amateur d'art contemporain, mais aussi un amateur de bonnes choses. Voilà, je vous remercie tous les trois. Je remercie évidemment Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. D'ici là, portez-vous bien, promenez-vous en forêt et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM. Bonsoir.